Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est à ouïr.
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateur. Des oreilles d'auditeur. Soyez tout ouïe, non ?
Non.
Trois histoires de Dino Buzzati. Et si ?
C'était lui, le dictateur, et dans la salle du Conseil suprême venait de prendre fin le rapport du Congrès universel de la fraternité, au terme duquel la notion de ses adversaires avait été pulvérisée à une majorité écrasante, grâce à laquelle il devenait le personnage le plus puissant du pays, et tout ce qui se rapportait à lui, désormais, serait écrit ou dit avec des majuscules, à cause du tribut d'honneur.
Il avait donc atteint l'ultime objectif de sa vie, et il ne pouvait raisonnablement désirer rien de plus. À 45 ans, la domination de la Terre.
Et il n'y était pas parvenu, selon la coutume, par la violence, mais par son travail, sa fidélité, son austérité, le sacrifice de toute distraction, des rires, des joies physiques et des sirènes mondaines.
Il était pâle et portait des lunettes. Toutefois, personne n'était au-dessus de lui. Il se sentait bien un peu fatigué, mais heureux.
Un bonheur sauvage, si intense qu'il en devenait presque douloureux, l'imprégnait jusque dans les profondeurs de sa chair, tandis qu'il parcourait à pied, démocratiquement, les rues de la ville, en méditant sur son propre succès.
C'était lui le grand musicien qui, quelques instants auparavant, au théâtre impérial de l'opéra, avait entendu les notes de son chef-d'œuvre germer et s'épanouir dans le cœur du public haletant, remportant un triomphe et dans son crâne résonnaient encore les cathares massifs des applaudissements ponctués de hurlements de délire, comme il n'en avait jamais entendu, ni pour lui, ni pour les autres, et dans lesquels il y avait de l'extase, des larmes, de la soumission.
C'était lui le grand chirurgien qui, une heure auparavant, devant un corps humain déjà aspiré par les ténèbres, au milieu du désarroi de ses assistants qui le croyaient devenu fou, avait osé ce que personne n'avait encore jamais osé imaginer. Détectant de ses mains magiques la petite lueur vacillante dans les profondeurs insondables du cerveau, où cette ultime parcelle de vie s'était cachée comme un pauvre chien moribond qui se traîne dans la solitude du bois, pour que personne n'assiste à l'humiliation déshonorante de sa faim. Et cette microscopique étincelle, il l'avait libérée du cauchemar des ténèbres, en la recréant pour ainsi dire, de sorte que le défunt avait réouvert les yeux et souri.
C'était lui, le grand financier, qui venait de triompher d'une série de manigances perfides qui devaient l'amener à la catastrophe et l'écraser. Mais par un coup de génie, il les avait retournées contre ses ennemis en les ruinant. À la suite de cette périlleuse manœuvre, dans un frénétique crescendo de téléphones en folie, de calculatrices et de téléscripteurs électroniques, son compte créditeur s'était amplifié d'une capitale à l'autre comme un lourd nuage d'or, au-dessus duquel, maintenant, il trônait victorieux.
C'était lui le grand savant qui, dans un élan d'aspiration divine, venait de percer, dans son misérable bureau, la sublime essence de la formule suprême, devant laquelle les gigantesques efforts mentaux de centaines de savants collègues dissimés dans le monde entier devenaient du coup, en comparaison, des balbutiements ridicules et incohérents. Et maintenant, il savourait la béatitude spirituelle de tenir bien serré dans ses mains la vérité première, comme une douce et irrésistible créature humaine qui serait sienne.
C'était lui, le généralissime, qui, encerclé par des armées en nombre bien supérieur, avait, par sa ruse et son énergie, transformé son armée épuisée et découragée en une horde de titans déchaînés. Et le cercle de fer et de feu qui l'étouffait s'était brisé en quelques heures. Les bataillons ennemis, terrorisés, fuyaient en débandade.
C'était lui, le grand industriel, le grand explorateur, le grand poète, l'homme finalement victorieux, Après de très longues années d'un travail laborieux et ingrat, d'obscurité, d'économie, de fatigue incessante, et dont les stigmates, hélas, sont indélébiles sur le visage las, par ailleurs lumineux et rayonnant.
C'était une merveilleuse matinée ensoleillée. C'était un crépuscule orageux. C'était une tiède nuit éclairée par la lune. C'était un glacial après-midi de tempête. C'était une aube de cristal très pur. C'était seulement l'heure rare et merveilleuse de la victoire que peu d'hommes connaissent.
Et il marchait perdu dans cette exaltation indicible, tandis que les immeubles faisaient la haie autour de lui, dans l'évidente intention de lui rendre les honneurs.
S'ils ne se courbaient pas pour le saluer, c'était seulement parce qu'ils étaient faits de pierre, de fer, de ciment et de briques, d'où une certaine rigidité.
Et les nuages du ciel, eux aussi, fantômes heureux, se plaçaient en cercle, par bandes superposées, en formant une espèce de couronne.
C'est alors, comme il traversait les jardins de l'amirauté, que son regard, par hasard, en passant, se posa sur une jeune femme.
À cet endroit, le long de l'allée, s'étendait une sorte de terrasse surélevée, bordée d'une balustrade en fer forgé.
La jeune fille se tenait là, les coudes appuyés sur la balustrade, et elle regardait distraitement en dessous.
Elle pouvait avoir une vingtaine d'années, pâle, les lèvres paresseusement entr'ouvertes, avec une expression d'apathie languissante et destructrice. Ses cheveux très noirs tirés sur le haut de la tête étaient coiffés en chignons qui projetaient, elle de jeune corbeau, une ombre sur son front.
Elle aussi se trouvait dans l'ombre, à cause d'un nuage, très belle.
Elle portait un simple pull-over de couleur grise et une jupe noire très serrée à la taille.
Le poids de son corps reposait sur la balustrade et ses hanches s'épanouissaient librement de biais, nonchalantes et animales.
C'était peut-être une étudiante de la bohème d'avant-garde, une de ces filles qui, avec leur négligence et leur impertinence, parviennent à une élégance presque agressive.
Elle portait de larges lunettes bleues.
D'en bas, mais juste pendant une fraction infinitésimale de seconde, il entrevit ses jambes au travers de la grille de la balustrade. Juste une partie, car les pieds étaient cachés par le bord de la terrasse et sa jupe était plutôt longue.
Il perçut toutefois, à contre-jour, la courbure insolente des mollets qui s'élargissent au-dessus des chevilles fines en cette émouvante progression charnelle que tous connaissent, bien vite cachée cependant par le bord de la jupe.
Ses cheveux flamboyaient au soleil.
Elle pouvait tout aussi bien être une fille de famille, une actrice, une pauvre créature ou encore une fille perdue.
Quand il passa devant elle, la distance entre eux n'était guère de plus de 2,5 mètres, 3 mètres.
Cela dura le temps d'un clin d'œil, mais il put la voir très bien.
La fille le regarda, non par curiosité, au contraire, même c'était plutôt par une sorte de suprême indifférence qui faisait que, toute à son apathie, elle ne contrôlait même pas ses regards.
Après lui avoir lancé un coup d'œil fugitif, il avait de nouveau regardé droit devant lui pour garder sa dignité, d'autant plus que son secrétaire et deux acolytes l'escortaient.
Mais il ne put résister, et le plus rapidement possible, tourna de nouveau la tête pour la voir.
De nouveau, la fille le regarda. Il lui sembla même, mais ce devait être une idée qu'il se faisait, que les voluptueuses lèvres exsangues avaient un frémissement, comme lorsqu'on va parler.
« Allons, suffit ! Il ne pouvait décemment plus rien risquer. Il ne la reverrait sans doute jamais. »
Sous la pluie qui tombait à verse, il s'appliqua à ne pas mettre les pieds dans les flaques d'eau de l'allée.
Il lui sembla ressentir une vague chaleur sur la nuque, comme si un souffle l'effleurait.
Peut-être, peut-être le fixait-elle encore.
Il pressa le pas.
Mais, à ce moment précis, il s'aperçut que quelque chose lui manquait.
Une chose essentielle, très importante.
Il haleta.
Et s'aperçut avec effroi que le bonheur d'avant, cette sensation d'apaisement et de victoire avait cessé d'être.
Son corps était un poids triste. Et une foule d'ennuis l'attendait.
Pourquoi ?
Qu'était-il arrivé ?
N'était-il pas le dominateur, le grand artiste, le génie ?
Pourquoi ne réussissait-il plus à être heureux ?
Il marchait.
Désormais, le jardin de l'amirauté se trouvait derrière lui.
Où se trouvait cette fille maintenant ?
Quelle absurdité, quelle sottise ! Parce qu'il avait vu une femme, amoureux, comme ça, tout d'un coup ?
Non, non, ce n'était pas des choses pour lui. Une fille inconnue, peut-être une pas grand-chose. Et pourtant,
Là où, quelques instants auparavant, vibrait une délectation infinie, s'étendait maintenant un désert aride.
Il ne la reverrait plus jamais.
Il ne la connaîtrait jamais.
Il ne lui parlerait jamais.
Ni à elle, ni à ses semblables.
Il vieillirait sans même leur adresser un mot.
Dans la gloire, oui, mais sans cette bouche, sans ces yeux à l'apathie lancinante, sans ce corps mystérieux.
Et tout cela, sans le savoir, il l'avait fait pour elle.
Pour elle et les femmes comme elle, les inconnues, les dangereuses créatures qu'il n'avait jamais touchées.
Et si ces années infinies de claustration, d'efforts, de rigueur, de pauvreté, de discipline, de renoncement n'avaient eu que ce but, si dans la profondeur et le dépouillement de ces macérations, ce désir effrayant s'était tapis.
Si derrière la soif de célébrité et de puissance, sous ces misérables apparences, l'amour seul l'avait éperonné.
Mais il n'avait jamais compris. Il ne s'en était jamais douté.
La seule pensée lui aurait semblé une folie scandaleuse.
Ainsi, les années étaient passées inutilement.
Et aujourd'hui, il était trop tard. Pauvre petit garçon.
Comme d'habitude, Madame Clara emmena son petit garçon, 5 ans, au jardin public au bord du fleuve. Il était environ 3 heures.
La saison n'était ni belle ni mauvaise. Le soleil jouait à cache-cache et le vent soufflait de temps à autre, porté par le fleuve.
On ne pouvait pas dire non plus de cet enfant qu'il était beau. Au contraire, il était plutôt pitoyable, même maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert, au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient laitue.
Mais d'habitude, les enfants au teint pâle ont en compensation d'immenses yeux noirs qui illuminent leur visage exsangu et lui donnent une expression pathétique.
Ce n'était pas le cas de Dolphy. Il avait de petits yeux insignifiants qui vous regardaient sans aucune personnalité.
Ce jour-là, le bambin, surnommé laitue, avait un fusil tout neuf qui tirait même de petites cartouches. Inoffensives, bien sûr. Mais c'était quand même un fusil.
Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants, car d'ordinaire, il le tracassait. Alors, il préférait rester tout seul dans son coin, même sans jouer.
Parce que les animaux, qui ignorent la souffrance de la solitude, sont capables de s'amuser tout seuls. Mais l'homme, au contraire, n'y arrive pas. Et s'il tente de le faire, bien vite une angoisse encore plus forte s'empare de lui.
Pourtant, quand les autres gamins passaient devant lui, Dolphy épaulait son fusil et faisait semblant de tirer. Mais sans animosité. C'était plutôt une invitation, comme s'il avait voulu leur dire
« Tiens, tu vois, moi aussi aujourd'hui j'ai un fusil. Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de jouer avec vous ?»
Les autres enfants éparpillés dans l'allée remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolphy.
C'était un jouet de 4 sous. Mais il était flambant neuf, et puis il était différent des leurs, et cela suffisait pour susciter leur curiosité et leur envie. L'un d'eux dit
« Hé, vous autres, vous avez vu la laitue, le fusil qu'il a aujourd'hui ?»
Un autre dit
« La laitue a porté son fusil seulement pour nous le faire voir et nous faire bisquer, mais il ne jouera pas avec nous. D'ailleurs, il ne sait même pas jouer tout seul. La laitue est un cochon !» Et puis son fusil, ben c'est de la camelote.
Il ne joue pas parce qu'il a peur de nous,
dit un troisième.
Et celui qui avait parlé avant.
Peut-être, mais n'empêche que c'est un dégoûtant.
Madame Clara était assise sur un banc, occupée à tricoter, et le soleil, la main bête d'un halo. Son petit garçon était assis bêtement, désœuvré à côté d'elle. Il n'osait pas se risquer dans l'allée avec son fusil et le manipulait avec maladresse.
Il était environ 3 heures. Et dans les arbres, de nombreux oiseaux inconnus faisaient un tapage invraisemblable, signe peut-être que le crépuscule approchait.
« Allons, Dolphy, va jouer !» l'encourageait Madame Clara, sans lever les yeux de son travail.
« Jouer avec qui ?»«
Mais avec les autres petits garçons, voyons. Vous êtes tous amis, non ?»«
Non, on n'est pas amis, » disait Dolphy. « Quand je vais jouer, bah, ils se moquent de moi. »«
Tu dis cela parce qu'ils t'appellent laitue ?»«
Je veux pas qu'ils m'appellent laitue. »
« Pourtant, moi je trouve que c'est un joli nom. »
À ta place, je ne me fâcherais pas pour si peu. » Mais lui, obstiné.
« Je veux pas qu'on m'appelle laitue !»
Les autres enfants jouaient habituellement à la guerre, et ce jour-là aussi.
Dolphy avait tenté une fois de se joindre à eux, mais aussitôt il l'avait appelé laitue, et il s'était mis à rire.
Ils étaient presque tous blonds. Lui, au contraire, était brun, avec une petite mèche qui retombait sur le front, en virgule.
Les autres avaient de bonnes grosses jambes. Lui, au contraire, avait de vraies flûtes maigres et grêles.
Les autres couraient et sautaient comme des lapins. Lui, avec sa meilleure volonté, il réussissait pas à les suivre.
Ils avaient des fusils, des sabres, des frondes, des arcs, des sarbacanes, des casques. Le fils de l'ingénieur Weiss avait même une cuirasse brillante comme celle des hussards.
Les autres, qui avaient pourtant le même âge que lui, connaissaient une quantité de gros mots très énergiques et ils n'osaient pas les répéter. Ils étaient forts et lui si faible.
Mais cette fois, lui aussi était venu avec un fusil.
C'est alors qu'après avoir tenu conciliabule, les autres garçons s'approchèrent.
« Tu as un beau fusil ?»
dit Max, le fils de l'ingénieur Weiss.
« Fais voir !»
Dolphy, sans le lâcher, laissa l'autre l'examiner.
« Pas mal !»
reconnut Max avec l'autorité d'un expert.
Il portait en baudoulière une carabine à air comprimé qui coûtait au moins 20 fois plus que le fusil. Dolphy en fut très flatté.
« Avec ce fusil, toi aussi tu peux faire la guerre !»
dit Walters, en baissant les paupières avec condescendance.
« Mais oui, avec ce fusil, tu peux être capitaine !» dit un troisième.
Et Dolphy les regardait émerveillé. Il ne l'avait pas encore appelé laitue. Il commença à s'enhardir.
Alors, ils lui expliquèrent comment ils allaient faire la guerre ce jour-là. Il y avait l'armée du général Max, qui occupait la montagne. Et il y avait l'armée du général Walter, qui tenterait de forcer le passage.
Les montagnes étaient en réalité deux talus herbeux recouverts de buissons. Et le passage était constitué par une petite allée en pente.
Dolphy fut affecté à l'armée de Walter, avec le grade de capitaine.
Et puis les deux formations se séparèrent, chacune allant préparer en secret ses propres plans de bataille.
Pour la première fois, Dolphy se vit prendre au sérieux par les autres garçons.
Walter lui confia une mission de grande responsabilité. Il commanderait l'avant-garde.
Ils lui donnèrent comme escorte de bambins à l'air sournois, armé de fronde, et l'expédièrent en tête de l'armée avec l'ordre de sonder le passage.
Walter et les autres lui souriaient avec gentillesse, d'une façon presque excessive.
Alors Dolphy se dirigea vers la petite allée qui descendait en pente rapide. Des deux côtés, les rives herbeuses avec leurs buissons.
Il était clair que les ennemis commandés par Max avaient dû tendre une embuscade en se cachant derrière les arbres. Mais on n'apercevait rien de suspect.
Hé ! Capitaine Dolphy, pars immédiatement à l'attaque ! Les autres n'ont sûrement pas encore eu le temps d'arriver,
ordonna Walter sur un temps confidentiel.
Aussitôt que tu es arrivé en bas, nous accourons et nous y soutenons leurs assauts. Mais toi, cours, cours le plus vite que tu peux ! On ne sait jamais !
Dolphy se retourna pour le regarder. Il remarqua que tant Walters que ses autres compagnons d'armes avaient un étrange sourire.
Il eut un instant d'hésitation.
« Qu'est-ce qu'il y a ? »
demanda-t-il.
« Allons, capitaine, à l'attaque !» intima le général.
Au même moment, de l'autre côté du fleuve invisible, passa une fanfare militaire.
Les palpitations émouvantes de la trompette pénétrèrent comme un flot de vie dans le cœur de Dolphy, qui serra fièrement son ridicule petit fusil et se sentit appelé par la gloire.
« À l'attaque, les enfants !»
cria-t-il comme il n'aurait jamais eu le courage de le faire dans des conditions normales.
Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente.
Au même moment, un éclat de rire sauvage éclata derrière lui. Mais il n'eut pas le temps de se retourner.
Il était déjà lancé, et d'un seul coup, il sentit son pied retenu. À 10 centimètres du sol, ils avaient tendu une ficelle.
Il s'étala de tout son long par terre en se cognant douloureusement le nez.
Le fusil lui échappa des mains.
Un tumulte de cris et de coups se mêla aux échos ardents de la fanfare.
Il essaya de se relever, mais les ennemis débouchèrent des buissons et le bombardèrent de terrifiantes balles d'argile pétries avec de l'eau.
Un de ses projectiles le frappa en plein sur l'oreille, le faisant trébucher de nouveau.
Alors, ils sautèrent tous sur lui et le piétinèrent.
Même Walters, son général, même ses compagnons d'armes.
« Tiens, attrape, capitaine laitue !»
Enfin, il sentit que les autres s'enfuyaient. Le son héroïque de la fanfare s'estompait au-delà du fleuve.
Secoué par des sanglots désespérés, il chercha autour de lui son fusil. Il le ramassa.
Ce n'était plus qu'un tronçon de métal tordu. Quelqu'un avait fait sauter le canon. Il ne pouvait plus servir à rien.
Avec cette douloureuse relique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couverts de terre de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman dans l'allée.
« Mon Dieu, Dolphy, qu'est-ce que tu as fait ?»
Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait, mais ce qu'il avait fait lui.
Instinctif dépit de la brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu.
Mais il y avait aussi l'humiliation de la mère.
Quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin ?
Quelle misérable destinée l'attendait ?
Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin ?
Pourquoi Dolphy restait-il si rachitique ?
Pourquoi était-il toujours si pâle ?
Pourquoi était-il si peu sympathique aux autres ?
Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et conduire par le bout du nez ?
Elle essaya d'imaginer son fils dans 15-20 ans.
Elle aurait aimé se le représenter en uniforme.
À la tête d'un escadron de cavalerie.
Ou donnant le bras à une superbe jeune fille.
Ou patron d'une belle boutique.
Ou officier de marine.
Mais elle n'y arrivait pas.
Elle le voyait toujours assis, un porte-plume à la main, avec de grandes feuilles de papier devant lui, penché sur le banc de l'école, penché sur la table de la maison, penché sur le bureau d'une étude poussiéreuse.
Un bureaucrate, un petit homme terne, il serait toujours un pauvre diable vaincu par la vie.
« Oh, le pauvre petit !» s'apitoya une jeune femme élégante qui parlait avec Madame Clara.
Et, secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolphy.
Le garçon leva les yeux, reconnaissant. Il essaya de sourire, et une sorte de lumière éclaira un bref instant son visage pâle.
Il y avait toute la mère solitude d'une créature fragile, innocente, humiliée, sans défense. Le désir désespéré d'un peu de consolation, un sentiment pur, douloureux et très beau, qu'il était impossible de définir pendant un instant.
Et ce fut la dernière fois.
Il fut un petit garçon doux, tendre et malheureux, qui ne connaîtrait pas et demandait au monde environnement un peu de bonté.
Mais ce ne fut qu'un instant.
« Allons, Dolphy, viens te changer !» fit la mère en colère, et elle le traîna énergiquement à la maison.
Alors, le bambin se remit à sangloter, à cœur fendre. Son visage devint subitement laid. Un rictus dur lui plissa la bouche.
« Oh, ces enfants, quelle histoire ils font pour un rien !» s'exclama l'autre dame agacée en les quittant. « Allons, au revoir, Madame Hitler !» Jeune fille qui tombe, tombe.
Martha, 19 ans, se pencha en haut du gratte-ciel et apercevant au-dessus d'elle la ville qui resplendissait dans le soir, elle fut prise de vertige.
Le gratte-ciel était en argent, suprême et heureux en ce beau soir très pur, tandis que le vent étirait des flocons de nuages. Ça et là, sur un fond d'azur absolument incroyable.
C'était en effet l'heure à laquelle les villes sont saisies par l'inspiration, et celui qui n'est pas aveugle en a le souffle coupé.
De ce fait aérien, la jeune fille voyait les rues et la masse des immeubles se contorsionner dans le long spasme du crépuscule. Et là où finissait la blancheur des maisons, commençait le bleu de la mer qui, d'en haut, semblait en pente.
Et comme de l'Orient venaient les voiles de la nuit, la ville devint un doux abîme grouillant de lumière et qui palpitait.
Il s'y trouvait les hommes puissants et les femmes plus puissantes encore.
Les fourrures et les violons.
Les voitures d'onyx.
Les enseignes phosphorescentes des boîtes de nuit.
Les portiques des palais éteints.
Les fontaines.
Les diamants.
Les antiques jardins taciturnes.
Les fêtes.
Les désirs.
Les amours et au-dessus de tout cela, cet enchantement bouleversant du soir qui fait rêver de grandeur et de gloire.
En voyant toutes ces choses, Martha se pencha exagérément par-dessus la balustrade et s'abandonna dans le vide.
Elle eut la sensation de planer dans l'air, mais elle tombait.
Étant donné l'extraordinaire hauteur du gratte-ciel, les rues et les places tout au fond, en bas, étaient extrêmement lointaines. Mais qui sait combien de temps il faudrait pour y arriver? Mais la jeune fille tombait.
Le soleil, qui n'était pas encore complètement couché, fit de son mieux pour illuminer la petite robe de Martha.
C'était un modèle de vêtements de printemps acheté en confection et bon marché.
Mais la lumière lyrique du coucher de soleil la magnifiait et la rendait presque chic.
Au balcon, des milliardaires, des mains galantes se tendaient vers elle en lui offrant des fleurs et des verres.
Un petit drink, mademoiselle?
Gentil petit papillon, pourquoi ne t'arrêtes-tu pas une minute parmi nous?
Elle riait tout en volant heureuse.
Mais en attendant, elle tombait toujours.
Non, merci mes amis. Je ne peux pas, je suis pressée d'arriver.
Arriver où? Lui demandait-il.
Ah, ne me le demandez pas, répondait Martha. Et elle agitait les mains en un salut familier.
Un grand jeune homme brun très distingué allongea le bras pour la saisir. Elle lui plaisait. Mais Martha s'esquiva adroitement.
« Comment osez-vous, monsieur ?»
Et elle trouva le temps de lui donner du bout des doigts une pichenette sur le nez.
Les gens de la haute s'occupaient donc d'elle, et cela la remplit de satisfaction.
Elle se sentait fascinante, à la mode.
Sur les terrasses fleuries, au milieu des allées et venues des valets en blanc et des bouffées de chansons exotiques, on parla pendant quelques minutes, peut-être moins, de cette jeune fille qui passait.
De haut en bas, suivant un chemin vertical.
Certains la jugeaient belle, d'autres comme ci, comme ça. Tous la trouvaient intéressante.
« Vous avez toute la vie devant vous, » lui disait-il. « Pourquoi vous pressez-vous autant? Vous avez bien le temps de courir et de vous essouffler. Arrêtez-vous un moment auprès de nous. Ce n'est qu'une modeste petite réunion entre amis. Mais... « J'espère que vous y plairez quand même. »
Elle s'apprêtait à répondre, mais déjà l'accélération due à la pesanteur l'avait portée à l'étage inférieur, à 2, 3, 4 étages plus bas, comme on tombe joyeusement quand on a à peine 19 ans.
Certes, la distance qui la séparait du bas, c'est-à-dire du niveau de la rue, était immense, moins qu'il y a un instant, bien sûr, mais toutefois, elle demeurait encore considérable.
Entre-temps, cependant, le soleil s'était plongé dans la mer. On l'avait vu disparaître, transformé en champignon rougeâtre et tremblotant.
Ses rayons vivifiants n'étaient plus là pour illuminer le vêtement de la jeune fille et en faire une comète séduisante.
Heureusement que les fenêtres et les terrasses du gratte-ciel étaient presque toutes éclairées, et leur reflet intense la frappait en plein au fur et à mesure qu'elle passait devant.
Maintenant, Martha ne voyait plus uniquement à l'intérieur des appartements des compagnies de gens sans souci. De temps en temps, il y avait aussi des bureaux où des employés en blouse noire ou bleue étaient assis devant de petites tables, en longue file.
Plusieurs d'entre elles étaient jeunes comme elle, parfois même davantage, et, fatiguées désormais de la journée, elles levaient de temps en temps les yeux de leur occupation et de leur machine à écrire. Elles aussi la virent, et quelques-unes coururent à la fenêtre.
« Où vas-tu ? Pourquoi une telle hâte ? Qui es-tu ? » lui criait-elle.
Et on sentait dans leur voix quelque chose qui ressemblait à de l'envie.
« On m'attend en bas !» répondait-elle. « Je ne peux pas m'arrêter, excusez-moi !»
Et elle riait encore en voltigeant avec légèreté le long du précipice. Mais ce n'étaient plus les éclats de rire d'avant.
La nuit était sournoisement descendue et Martha commençait à sentir le froid.
À ce moment, en regardant en bas, elle vit à l'entrée d'un immeuble un vif halo de lumière.
De longues automobiles noires s'arrêtaient.
À cause de la distance, elles n'étaient guère plus grandes que des fourmis.
Et il descendait des hommes et des femmes pressés d'entrer.
Il lui sembla décerner dans ce fourmillement le scintillement des bijoux.
Au-dessus de l'entrée flottaient des drapeaux.
Il était évident qu'on donnait là une grande fête, exactement celle dont Martha rêvait depuis qu'elle était petite fille.
Il ne fallait surtout pas la manquer.
Là-bas, l'attendait l'occasion, la fatalité, le roman. La véritable inauguration de la vie.
Est-ce qu'elle arriverait à temps?
Avec dépit, elle s'aperçut qu'à une trentaine de mètres plus bas, une autre jeune fille était en train de tomber.
Elle était bien plus belle qu'elle et portait une petite robe de cocktail qui avait de la classe.
Qui peut savoir pourquoi elle descendait à une vitesse très supérieure à la sienne, au point qu'en quelques instants, elle la distança et disparut en bas, en dépit des appels de Martha.
Elle allait, c'est sûr, arrivée à la fête avant elle,
C'était peut-être un plan calculé d'avance pour la surplanter.
Et puis Martha se rendit compte qu'elles n'étaient pas les seules à tomber.
Tout au long des flancs du Graxiel, d'autres jeunes femmes glissaient dans le vide, les visages tendus dans l'excitation du vol, agitant les mains comme pour dire
« Nous voici, nous sommes ici, c'est notre heure. Accueillez-nous et faites-nous fête. Est-ce que le monde n'est pas à nous ?»
C'était donc une compétition. Et elle n'avait qu'une pauvre petite robe de rien du tout, tandis que les autres exhibaient des modèles de grands couturiers, et que certaines même serraient sur leurs épaules nues de larges étoles de vison.
Martha, qui était tellement sûre d'elle quand elle avait commencé son vol, sentait maintenant une sorte de frisson sourdre au plus profond de son être. Peut-être était-ce simplement le froid, mais peut-être aussi la peur, l'angoisse de s'être trompée depuis le début, sans espoir d'y remédier.
La nuit était presque complètement tombée maintenant.
Les fenêtres s'éteignaient l'une après l'autre.
Les échos de musique se raréfiaient.
Les bureaux étaient vides.
Aucun jeune homme ne se penchait plus à la fenêtre pour lui tendre la main.
Quelle heure était-il ?
L'entrée de l'immeuble en bas.
Entre-temps, elle s'en était approchée et pouvait en distinguer désormais tous les détails d'architecture.
Était toujours illuminée, mais le va-et-vient des automobiles avait cessé.
De temps à autre, au contraire, de petits groupes sortaient par la grande porte et s'éloignaient d'un pas fatigué.
Et puis les lampes de l'entrée, elles aussi, s'éteignirent.
Martha sentit son cœur se serrer.
Hélas, elle n'arriverait pas à temps pour la fête.
Jetant un coup d'œil en l'air, elle vit le sommet du gratte-ciel dans toute sa cruelle puissance.
C'était la nuit noire. Les fenêtres encore allumées étaient rares et décimées au dernier étage.
Au-dessus du gratte-ciel, la première lueur de l'aube s'allongeait lentement.
Dans un office du 20e étage, un homme sur la quarantaine était en train de siroter son café matinal en lisant le journal tandis que sa femme faisait le ménage dans la pièce.
Une pendule sur le buffet marquait 9h moins le quart. Une ombre passa soudain devant la fenêtre.
« Alberto !» cria la femme. « T'as vu une femme qui vient de passer ?»«
Oh, comment elle était ?»
fit-il sans lever les yeux de son journal.
« Une vieille !» répondit sa femme. Une pauvre vieille toute décrépie, et elle avait l'air épouvantée.
Ah, toujours comme ça, grommela l'homme. À ces étages-ci, on ne voit passer que des vieilles. Les belles filles, on ne peut les reluquer que de tout là-haut, vers le 500e étage. C'est pas pour rien que ces appartements-là coûtent si cher.
Oui, mais ici au moins, observa sa femme. On entend quand elle s'écrase par terre.
Cette fois-ci, on ne l'aura même pas entendue,
dit-il en secouant la tête. Après avoir tendu l'oreille quelques instants.
Et il but une autre gorgée de café.
Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est-à-dire ?
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateurs. Des oreilles d'auditeurs. Soyez toutes oui, non ?
Non.